Ah, c'est mon chouchou, Alain Souchon. Ah. Une question qui va porter sur l'actuel détenteur du record du saut en longueur français. Le 12 juin 2009, Salim Sdiri saute 8,42 m, un record qui n'a toujours pas été battu. Pour quelle autre raison Salim est connu ? Est-ce qu'il a été en couple avec la Française qui a le record de saut, mais en hauteur ? Est-ce qu'il a le record du saut en longueur, mais aussi en largeur ? Et est-ce qu'il a reçu un javelot dans le dos pendant une compétition ?
Ah, oh. Ah, mais je crois que c'est ça. Je me dis, c'est pas au championnat du monde. C'était, l'image était assez flippante.
Elle est restée
ça me dit quelque chose, ouais.
C'est resté dans le dos, il l'a pris. Enfin...
Oui, non, c'était pas pour le plaisir.
Non,
je suis la réponse sur le javelot parce qu'il me semble avoir aussi entendu ça. Mon mari étant kiné, à qui je passe le petit coucou d'ailleurs en passant, kiné dans le sport, donc j'en ai entendu parler.
Qu'est-ce qu'il fait dans le sport, votre mari ?
Il lance des javelots.
Kiné-thérapeute, donc il répare les gens qui reçoivent un javelot dans le dos.
Ah. Il s'appelle comment ?
Romain.
Romain.
Vous avez eu une hésitation quand même.
Bon, c'est une bonne réponse, Vanessa. Bravo. Trois bonnes réponses pour vous. C'était en 2007, en plein gala d'athlétisme à Rome. Ah ouais. Il reçoit un javelot pendant une compétition. Le lanceur finlandais, il avait déjeuné avec moi en fait, il avait totalement raté son lancer. Le javelot est parti vers la zone d'échauffement des sauteurs en longueur. Salim le reçoit dans le dos. Le javelot va toucher le foie, c'est quand même grave.
Oui, donc
finalement, il a guéri après une longue convalescence. Deux ans après, il est au top et signe le record de France qui est toujours en cours. Donc c'est dangereux.
C'est vraiment pointu.
Non, mais c'est surtout incroyable qu'il ait réussi son record après ça.
Oui, voilà,
ça aurait pu condamner sa carrière. Magnifique.
Ouais. Trois bonnes réponses pour Vanessa. Je ne savais pas que c'était aussi dangereux ces meetings d'athlétisme. C'est vrai qu'ils sont tous en même temps dans le stade.
C'est ça, et puis c'est aussi pour ça qu'il y a des aires de lancer, notamment pour le marteau, parce que vous imaginez, je pense qu'il y aurait quelques morts depuis longtemps.
Ah ouais, les lancers, si, lancers pas... de poids, là.
Oui, oh
là
c'est là. Ça. Enfin, le poids, ça va, mais surtout, le marteau, ça peut partir, si c'est mal maîtrisé, un peu partout. Ouais.
Allez, on va changer de genre, puisque voici une question histoire de la psychanalyse.
Open Gangnam Style.
Le rapport n'est pas évident.
C'est ça la question. Quel est le rapport entre la musique
Parce que le chanteur s'appelle Psy. On va vous poser une question sur le fondateur de la psychanalyse, Freud. En 1938, le nazisme prend de l'ampleur. Freud est à Vienne. On lui propose de rejoindre Londres et on lui propose également de partir avec 20 personnes. De façon très étrange, sur cette liste de 20 personnes, il y aura ses servantes, ses infirmières, son chien même. Mais qui ne va pas s'inscrire ? Qui ne va-t-il pas inscrire ? Puisque c'est lui qui a choisi ces 20 personnes. Ses sœurs, ses petits-enfants ou son prof d'échec ?
Waouh.
Ah, on est en psychanalyse.
Vanessa, vous pensez à quoi, vous ?
Donc les réponses étaient soit sœur, soit son prof d'échec, et la troisième...
Soit ses petits-enfants. Ses sœurs, ses petits-enfants ou son prof d'échec. D'instinct, vous diriez quoi ?
Je dirais d'instinct son prof d'échec, mais en même temps, ses sœurs et ses petits-enfants, il y en a beaucoup.
Son prof d'échec, vous diriez-vous ? Que disent les copains ?
Ça paraît logique, étrange, mais j'aurais été aussi sur prof d'échec. Parce qu'en plus, là, c'est plusieurs personnes, les autres. Oui. Là, il y a une seule personne et la question, c'était...
Quelle personne il n'emmène pas avec lui.
Je parle de l'intitulé de la question.
Quelle personne il ne va pas emmener avec lui lorsqu'on lui propose de partir pour Londres.
Ça peut être qu'elle au pluriel.
Je sais pas. En fait, en vrai, j'en ai aucune idée.
Il était peut-être fâché avec ses sœurs. Oui.
Soit ça, ou alors juste peut-être que.
Non, j'ai pas dit quelle personne. J'ai dit de façon très étrange sur cette liste de 20 personnes, il y aura ses servantes, ses infirmières, son chien. Mais, mais qui ne va-t-il pas inscrire
Alors, voilà, de ça. Façon très étrange. Alors attention.
Ça,
De façon très étrange.
C'est peut-être ses sœurs. Ses sœurs ou ses enfants.
Mais ça dépend. Parce que, je sais pas, il peut y avoir une justification.
Est-ce que vous vous rendez compte que là, on est en train de pas du tout aider Vanessa?
Non, mais c'est facile, on l'aide à chercher sur Internet pendant qu'on discute.
On gagne du temps.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait, Vanessa? Il faut bloquer une réponse. Ses sœurs, ses petits-enfants ou son prof d'échec? Que dites-vous, les copains?
Moi, j'essaierai les sœurs. Ça paraît trop évident et ce serait pas. Enfin, ils auraient pas dit très étrange. Donc voilà, moi, je pense que c'est les sœurs.
Donc les copains penchent surtout pour les sœurs. Et vous?
Bah pareil, parce que c'est le mot étrange dans la question. Penché pour sœurs.
Donc je bloque cette réponse.
Ouh là là.
Et c'est une bonne réponse.
Oui.
Qui périront finalement dans un camp nazi. Rosa, Marie, Adolfina et Paula ne font pas partie de cette liste. Au mieux, on peut penser que Freud a sous-estimé la dangerosité et au pire, tout est possible car les historiens n'ont jamais vraiment expliquer ce choix. Ça fait 4 bonnes réponses pour Vanessa. Bravo à vous.
On va savoir si elle gagne le jackpot et si elle va pouvoir aller chercher ses enfants aussi à la carte.
Il y a quand même 2 enfants, pas dans la nature, mais presque.
Il y a 1 100 € à gagner si Vanessa trouve 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Vous êtes prête, Vanessa?
Je suis prête.
Attention, top chrono. Au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, c'est en 3 films ou 5?
3.
Actuellement à Monaco, ils en sont à quel numéro d'Albert? 2 ou 3?
C'est 2, il me semble.
François Hollande est président de la République en 2012 ou en 2015?
2012.
Louis VI est Louis VI le gros ou Louis VI le mince?
Le gros.
Niki Lauda était peintre ou pilote?
Pilote.
Combien il y a de A à MC Solar?
2.
Shamsoudinov fait du ski ou du MMA?
MMA, ouais.
Jabba le Hutt est dans Star Wars ou dans Harry Potter?
Harry Potter.
Combien font 3 plus 3 moins 3?
3.
La tour Eiffel fait plus ou moins de 300 mètres?
Plus de 300.
Quel est le prénom de la seule fille de François Mitterrand?
Neuf bonnes réponses. Oh là là, pourtant, qu'est-ce que vous étiez forte. Moi, il y a des trucs que je ne savais pas.
Alors, vous avez joué juste sur une réponse. Jabba le Hutt.
C'est Star Wars.
Star Wars. C'est le gros crapaud qui tient prisonnière la princesse Leia.
Ouais. Enfin, gros crapaud, une belle larve, hein.
C'est plus de compétition, larve géante.
Bon, ça sera pas un jackpot, Vanessa. Il faudra vous inscrire à nouveau ou vous envoyer votre mari qui s'inscrive à votre place. Et bonne fin d'après-midi à vous. Merci.
Merci encore. Merci, Robin.
Au revoir, Vanessa. Merci, Vanessa.
Bonjour Mickaël.
Bonjour Sophie, bonjour les copains, vous allez bien?
Bonjour Mickaël. Vous nous appelez de Clermont-Ferrand, c'est ça Mickaël?
Tout à fait, ouais.
Où vous faites quoi?
Alors moi je suis directeur adjoint en restauration et là je viens de finir mon service. D'habitude je rentre à la maison à cette heure-ci, mais là comme j'ai eu la chance d'être appelé.
Êtes-vous musicien Mickaël?
Oui, tout à fait, je suis musicien.
Vous jouez de quel instrument?
Moi, je suis guitariste principalement depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire pas loin de 20 ans. Et je touche aussi un petit peu au piano, à la batterie, à la basse.
À la trompette,
c'est l'instrument un peu essentiel du groupe de rock, pardon?
Pas à la trompette.
Non, parce qu'il a parlé des groupes de rock. La trompette dans un groupe de rock est plus rare.
J'ai pas encore fait ce cadeau à mes voisins, donc je pense qu'on va rester comme ça.
Vous jouez dans un groupe?
Je jouais dans un groupe avant, ouais, tout à fait.
D'accord.
J'ai eu une expérience en groupe.
Bon, oui. Parce que là, la première question va être musicale. On va jouer avec Yvan.
Je précise que j'ai plus de voisins, moi.
Tu vis sur une île.
Quasiment obligé quand tu joues de la trompette. Mickaël, je sors ma trompette, évidemment, puisque Sophie l'a pas encore dit.
Je vais vous laisser le proposer.
Mickaël, je vais vous jouer un extrait d'un opéra très connu, en fait. Et il va être très court, cet extrait. Il faut me dire de quel opéra il s'agit. Vous me trouvez peut-être le compositeur ou le titre de l'opéra, comme vous voulez, Mickaël, d'accord?
D'accord.
Vous aimez la musique classique aussi, Mickaël?
J'aurais aimé dire oui, j'ai entendu tout à l'heure que c'était un peu lié aux gens qui avaient des TPB, donc non, je suis pas trop de ce bord.
Non, il est drôle,
j'aime,
là.
J'aime beaucoup, mais malheureusement, je suis pas très renseigné. On va essayer de.
On
va essayer
Allez,
de
on y va. Voir.
Bravo, même on la connaît tous maintenant, c'est quoi ouais.
Alors, c'est ça, souvent avec les thèmes classiques, on ouais. sait tous qu'on
c'est
un thème mais... connu, mais on ne sait pas dire lequel exactement. Est-ce que ça vous parle, Michael, vous?
Alors, ça ne me parle pas du tout, j'ai l'impression que c'est le Figaro.
Ah, c'est bien, on n'est ouais. pas loin. Alors, c'est effectivement un des noms qui revient, qui est associé à cet opéra. Oui, c'est l'air de Figaro, effectivement, mais de quel opéra?
Ah ben disons que vous le savez. Gagné quand même, là.
C'est il est très connu. C'est un opéra bouffe italien très très connu, un chef-d'œuvre de l'opéra bouffe. On va lui accorder. Hein.
Ah oui,
c'est le Barbier de Séville, exactement.
Bah cher oui, Michael. On le savait, mais
voilà. Ah non, c'est l'air de Figaro. Le lien avec le. Avec
on dit que c'est une bonne
réponse. C'est une bonne réponse. C'est l'air de Figaro dans le Barbier de Séville.
Eh ben bravo, Michael, bravo.
Merci beaucoup.
Et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie en fait? Pourquoi vous êtes arrivé sur le Figaro? Parce que ça, c'est pas facile.
Est-ce que c'est 10 heures?
Non, pas du tout. Je suis au téléphone avec vous. C'est vraiment le côté sautillant qu'on retrouve dans le Figaro. Je me suis mis un petit peu ça en tête.
Bravo.
Exactement.
Ça veut dire que c'est l'opéra le plus connu de Rossini?
Oui, bien sûr. C'est chef-d'œuvre colossal, 1816, composé par Rossini. Mmh. Et il est intéressant parce qu'il y a des passages dans cet opéra qui nécessitent une capacité vocale, une virtuosité hors du commun.
Ouais, c'est,
alors, justement, tu fais bien de dire ça parce que le terme qui qualifie cette tessiture s'appelle coloratura. Et ça me donne l'occasion de vous en dire un mot et de vous donner des exemples. Ça veut dire que ce coloratura se dit d'une voix qui est capable de jouer des trucs extraordinairement difficiles, complexes, sur des musiques très ornées, comme ça, très ornementées, avec une dextérité incroyable. Je vais vous faire écouter un exemple qui va de suite vous faire comprendre pourquoi on parle de cette dextérité-là. Sur ceci, écoutez.
Ça, c'est pas très baryton.
C'est quoi, c'est la flûte enchantée?
Alors ça, c'est un air aussi du Barbier de Séville. C'est Julie Fuchs qui chante ça. Ça s'appelle Una voce poco fa. C'est extrait du Barbier de Séville. Et c'est effectivement aussi très impressionnant. Mais si vous allez encore sur un autre extrait, il y a l'air des clochettes de l'Acmé. Écoutez ça. Vous avez vu la précision?
Sortez.
Écoutez.
Rangez le cristal.
Écoutez bien cette précision, elle est remarquable. Vous avez vu là? On va chercher la note... sans erreur, pile au bon moment et au bon endroit. Etc, etc.
Waouh, c'est beau. Hein.
Et le tube par excellence,
alors,
justement.
C'est Anne-Sophie Petit qui chante.
Absolument, Sophie.
J'ai cru que c'était Caroline, moi.
Moi, j'ai plutôt la voix de Joe Cocker.
Oui,
moi, je serais baryton, justement, c'est pour ça.
Et tout le monde connaît le tube par excellence de ce répertoire coloratour, c'est ceci.
Ah bah oui.
La flûte enchantée.
Et c'est vraiment écrit pour une voix de soprano coloratour. Alors, Nathalie Dessay en France est vraiment la spécialiste de ce genre de chant. Et elle a cette voix précisément coloratour. Elle est connue dans le monde entier à cause de ça, pour ça.
Chouette.
C'est très beau.
Ah ben bah voilà, ouais, heureusement que t'es là, Yvan.
Alors, j'en avec Mickaël, qui a déjà une bonne réponse, il m'en faut encore trois. On va jouer au qui ou quoi.
1, 2, qui. Europe 1, le qui ou quoi.
Il faut deviner de qui ou de quoi on parle. Écoutez bien les indices et je reviens vers vous après, Michael.
Ça fait le bonheur des hommes et celui des femmes, ou pas.
À l'époque, son succès financier a fait affoler les bourses du monde entier.
Ça marche à 80%, c'est toujours ça de prix.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Attention aux effets indésirables.
Oh. Moi j'ai une idée, mais je pense que non, elle
est dans l'actu.
Elle est saugrenue,
ton idée. C'est dans l'actu,
je pense. C'est dans l'actu, non?
C'est toujours dans l'actu.
Non, pas
oui,
forcément.
Tu sais lien. Ce
que c'est,
toi?
Moi je pense à un médicament, mais je suis pas sûre. C'est ça?
Qu'est-ce que. Michael, ouais. Michael.
On va demander à Michael.
Tu vas pas parler du Viagra quand même?
Ah si, c'est à ça que je pensais, mais.
Michael, vous pensez à quoi?
Aux couleurs de repas, le petit médicament.
J'y ai pensé, mais.
À quoi?
Là pour le coup, j'ai vraiment rien dit. Au Viagra aussi.
Mais pourquoi pas, même tu le dis.
Et pourquoi vous avez pensé au Viagra?
Le bonheur des hommes, des femmes, fiable à 80%.
Ouais, c'est ça.
On sent du vécu, ouais. Mickaël. Ouais.
Effet secondaire.
Non, pas encore, j'espère pas.
Non, mais il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge pour les pannes d'érection, attention.
Qu'est-ce que tu as dit, Mélanie?
Je dis, il n'y a pas d'âge. Non, mais je parle en tant que vraiment là que scientifique. Il n'y a pas d'âge pour les pannes d'érection.
Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Oui, 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 ça peut être dû au, au stress, on peut être impressionné.
C'est un vrai trouble, à la radio, trop
bon,
d'Europe 1,
est-ce que vous êtes d'accord avec sa proposition, les copains?
Bah, moi, c'est celle qui m'est venue intuitivement.
Ah, mais immédiatement.
Moi, je trouve que ça correspond bien.
Moi aussi, c'est
donc,
un peu
d'actu. Est-ce qu'on bloque la réponse, si j'ose dire?
Mickaël?
Oui, dites oui.
Bah oui.
Allez.
Et effectivement, on parlait du Viagra. Ah, parce que c'est le 27 mars 1998 que l'Agence américaine du médicament approuve le lancement de la désormais célèbre pilule bleue. Mmh. À la base, c'est un médicament, le sildenafil, qui a été élaboré pour soigner les angines de poitrine. Ouais. Mauvaise nouvelle, ça ne marche pas, mais bonne nouvelle, ça a marché ailleurs.
Parfois, il y a des effets secondaires heureux.
Parce que quand même, avant, les troubles érectiles se combattaient avec des piqûres dans le pénis, quand même.
Ouais, c'est ça que j'ai toujours.
Ça, t'imagines l'horreur, le pauvre, quand même.
Vous savez qu'il existe un médicament qui s'appelle le Viazac, vous connaissez ça?
C'est
une association entre le Viagra et le Prozac. Ouais. C'est-à-dire que j'ai aucune érection, mais je m'en fous complètement.
Ok, bon, on va peut-être arrêter là sur cette petite pilule bleue. On va enchaîner avec une question française.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Une question sur notre belle langue française et ses expressions étonnantes. Je vous en donne une. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui? Klaxon. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas la version longue, j'imagine que vous aviez déjà entendu en voiture Simone.
Oui, j'avais vécu en voiture Simone, ouais.
Mais pourquoi en voiture Simone? Ça vient d'où? Est-ce que c'était le nom d'un modèle de Citroën pendant l'entre-deux-guerres? Est-ce que c'était le nom d'une vraie conductrice? Ou est-ce que c'était le titre d'un roman de Jean-Paul Sartre?
Moi j'aime bien l'histoire de la. Ben, attends, la voiture. Mickaël, déjà vous. Allez-y.
Mickaël. Quel est le nom d'une vraie conductrice?
Moi je pensais plutôt, plutôt à la voiture.
Et vous les copains?
Moi j'aurais dit tout sauf ça.
Ouais, moi j'aurais la voiture entre deux guerres.
Simone, elle serait méga connue quand même.
Eh ben, elle était.
Jean-Paul Sartre.
Alors, j'ai vu le bout du nez de Sophie bouger, Mickaël. Gardez votre réponse.
Finalement, Mickaël.
Il a peut-être raison,
ouais.
Alors, on bloque votre réponse, Mickaël.
Quand elle vous pousse à bloquer comme ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie, je pense.
Sinon, après, vous lui en voudrez, elle aime pas.
Moi, je reste peut-être sur cette idée d'une vraie conductrice.
Ah bah, vous l'avez dit au début.
Ok, je bloque votre réponse. Ouais. Elle s'appelait Simone Louise Pinet de Borde des Forêts. Elle va être l'une des premières femmes en France à décrocher son permis de conduire. Elle l'obtient en 1929 à 19 ans. Et dès l'année suivante, elle participe à des courses automobiles, notamment avec sa maman en guise de copilote.
C'est génial.
Elle a battu 24 records du monde de conduite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a conduit un camion de la Croix-Rouge. Elle sera la première femme à ouvrir une auto-école.
C'est génial.
Elle va se marier à 63 ans et nous quitté en 2004 à 94 ans. Alors, je crois
super
qu'on peut
vie,
dire...
Hein. Bravo,
chapeau
Simone.
Simone. Et l'expression a été popularisée par Guy Lux dans l'émission Interville lorsqu'il lance En voiture Simone Garnier.
Ah mais oui,
incroyable.
Joli,
Mickaël.
Dis donc,
bonne réponse pour Mickaël. Bon, voici la quatrième question, une question chinoise.
Incroyable.
La version chinoise.
C'est charmant.
Non, c'est une chinoise.
C'est pas Céline.
Non, c'est pas Céline.
Non.
Alors, nous partons donc pour l'Empire du Milieu, la Chine, et plus particulièrement pour Tiandoucheng. Cet endroit est grand comme Bastia. En 2013, il y avait environ 2000 habitants. Et pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est l'objet de ma question.
Parce qu'ils sont 200 millions maintenant.
Est-ce que j'en parle parce qu'il est interdit d'y parler? Parce que la ville est une reproduction de Paris? Ou parce que tous les habitants font partie des musiciens de l'Orchestre Symphonique National de Chine?
Ah bah déjà, interdit de parler, moi j'y vais pas.
Oui, mais c'est pas la question.
Pourtant, ça vous ferait du bien, je trouve. Une petite cure de silence, et ça nous ferait du bien aussi à nous.
Mais non, Sophie, les copains, vous allez vous ennuyer.
On sait combien il y a d'habitants, Sophie, vous l'avez dit.
2000 habitants. En 2013.
C'est bon pour un orchestre, ça, ou pas?
Et voilà, c'est ce que je voulais voir. Mais
on a besoin de vos lumières.
En 2013, ils ont fait des bébés depuis.
Non, 2000
alors
musiciens,
vous,
ça pourrait.
Alors, vous diriez
mais...
quoi, vous, Mickaël?
Ouais, Mickaël, il va nous sortir un truc, on ne sait pas pourquoi, pas mais... Allez-y, Mickaël.
Moi, je dirais, du coup, sur la reproduction de Paris. Ouais. On connaît pas mal l'attrait de la population chinoise pour la culture française.
Ouais, ça, c'est vrai.
D'accord. Du coup, ouais, je dirais la reproduction de Paris.
Il est très bien, ce Mickaël.
Je sais pas ce qu'il a, mais...
Non, il est très, très bien.
Est-ce que vous avez testé votre QI, Mickaël?
J'ai fait des tests en ligne avant d'être pris par le standard tout à l'heure.
Et ça a donné quoi?
Il a dépassé drôle. Einstein, ouais. Je pense.
Qu'est-ce qu'on fait, les copains?
Moi, je suis d'accord avec lui.
Je pense que c'est une bonne intuition.
Ouais, c'est la bonne intuition, je crois aussi.
Ouais. Ouais, parce que l'orchestre, c'est trop grand. 2000, ça me semble énorme.
On pourrait créer ça, mais ça n'a pas d'intérêt.
Il y a des chorales à 2000, mais pas des orchestres à 2000.
Tu pourrais mettre soit 600 cuivres, 700 cornes, mais ça n'avait pas d'intérêt, non.
Donc non, la musique, j'y crois pas. Donc, et juste, la première réponse, c'était quoi?
La vie interdit d'y parler.
Non.
On remarque qu'ils sont assez despotes, les Chinois. Ils sont bien capables de faire une vie.
La France, c'est bien.
Biarritz, il paraît que ça va être comme ça, si tu retournes.
Non, c'est impossible. Bon, donc je bloque, Mickaël.
On va bloquer sur la reproduction de Paris, oui.
D'accord.
Et suspense,
ah non, c'est
suspense.
Quoi cette tête, Sophie?
Je sais pas, Sophie. Ah, Mickaël, on ne sait pas quoi vous
je
dire,
fais
Mickaël.
Je suis Jocelyne Deneuve. Ah. C'est une bonne réponse, Mickaël. C'est une ville qui a reproduit partiellement Paris. Si vous vous y baladez, il y a une tour Eiffel, un quartier de Montmartre, il y a les Tuileries et même Versailles.
Wow.
C'est une destination romantique pour les couples qui se marient.
Ils n'ont pas les moyens d'aller chez nous.
C'est l'occasion de faire de belles photos sans aller jusqu'à Paris. Il y a Las Vegas aussi, hein, où on trouve une tour Eiffel.
Oui, mais à mon avis, non, mais Las Vegas, c'est assez avec des paillettes.
Ça ne fait pas rêver du tout, moi.
Ouais, c'est assez bling-bling, Las Vegas.
Essayez de venir à Paris quand même. Hein, je pense.
C'est vrai, mais
ça vaut de l'argent de venir à Paris. Et en tout cas, Mickaël, alors là, vous nous avez scotché.
Vous êtes déjà allé en Chine?
Merci, non, j'ai pas eu cette chance, je suis jamais sorti de l'Europe.
D'accord.
Bon, c'est déjà pas
mais
mal.
Mais vous êtes intuitif.
C'est déjà pas mal, ouais.
Bah oui.
Peut-être vous avez des dons de voyance, Mickaël.
Il était juste cultivé, Sophie.
J'ai eu le souvenir d'avoir peut-être déjà vu un reportage à ce sujet. Je crois que j'en ai vu un, mais il y a peut-être longtemps. Et je sais que j'ai une mémoire qui va noter beaucoup de choses et je vais aller retrouver les informations.
Alors,
parfois,
il est
de façon totalement aléatoire. Et là, du coup, ça me parlait. Donc,
incroyable. Et incroyable. Bravo.
Pour l'intuition, peut-être plus.
Il va gagner.
Vous allez pouvoir faire travailler votre mémoire dans quelques instants puisque vous allez tenter. Le jackpot, mémoire et rapidité. Là, il faudra me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute.
Allez, Mickaël.
Là, c'est culture générale et rapidité.
On croit en vous.
Mickaël, il ne faut pas traîner, hein. Il ne faut pas perdre
de temps.
On va
voir si vous confirmez le truc. Là,
la bonne impression qu'on
a vraiment une impression assez...
La pression, le pauvre, il met la pression.
On est assez bluffé par vos performances. Hein.
900 euros en jeu. Attention, Mickaël. Top chrono. Et là, qui va là? Je parle de quel inspecteur?
Gadget.
Combien il y a de haches à rhinocéros?
Un seul.
De quelle couleur est le soldat du conte musical de Louis Chédide?
Un soldat rose.
Quelle madame était à la tête d'un grand réseau de prostitution français dans les années 70?
Passe.
Madame Arthur est un cabaret de travestis parisien né en 1926 ou 1946?
46.
Quel animateur radio s'est longtemps autoproclamé l'animateur le plus con de la bande FM?
Passe.
Dans la comédie musicale de Philippe Châtel, comment est Émilie?
Jolie.
Athènes est la capitale de quel pays? Athènes est la capitale.
Grèce.
Dans la mythologie grecque, Morphée est un homme ou une femme?
Une femme.
En France, qu'est-ce qu'il y avait avant la 5e République?
La 4e République.
Le général de Gaulle meurt en 70 ou 75?
70.
Elisabeth Lévy travaille à Causeur ou à Causette?
Il en manque deux,
c'est ça?
Oui, bonne réponse. Pas mal.
Bravo quand même. Vous avez assuré.
Oh,
Merci.
Un peu trop long, Mickaël.
Alors, évidemment, c'était pas votre génération, mais quelle madame était à la tête d'un grand réseau? Ah, ben ça, vous connaissez bien quand même.
Ça, c'est ma génération, Sophie.
Quel animateur radio s'est longtemps autoproclamé l'animateur le
plus
con?
C'est pas Mickaël Lyon?
Arthur.
L'animateur le plus con de la bande FM. Dans la mythologie grecque, Morphée est un homme ou une femme? Un homme. C'est le dieu des rêves, fils de Hypnose, dieu du sommeil,
et de
Nyx,
déesse de la nuit. Et oh, c'est tout, sinon c'était
non, mais
bien
vous avez
joué.
Assuré,
il manquait
bravo.
Un peu de rapidité, mais c'était bien.
Il est très fort,
hein.
Ça confirme, fort. Ça confirme l'impression.
On confirme que vous n'aviez pas besoin de nous. Hein.
Bon, non. Donc on confirme que peut-être il faut que vous vous inscriviez à nouveau.
Rejouer, ouais.
On vous embrasse, on embrasse toute la famille. Merci de vous être inscrit.
Et pareil.
Et
merci
bravo.
Beaucoup, prenez soin de vous.
Mais merci beaucoup,
merci, Mickaël, vous avez assuré.
Vous avez un message à faire passer, peut-être?
J'embrasse très fort mon fils Maël, ma femme Charline et mes parents.
Et vos copains.
Vous. Voilà.
Il y a des parents qui écoutent Europe 1.
Oui.
Et qui s'appellent comment?
Au travail. Stéphanie et Carlos.
Et ben bisous, nous aussi, on les embrasse.
Big bisous alors.
Oui. Bonne fin d'après-midi à vous, Mickaël, et merci d'avoir
beaucoup.
Appelé. Bonjour Sandrine.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Qui appelle d'où Sandrine?
De Marsac, dans le Tarn.
Marsac, il n'y a pas un festival de jazz là-bas?
Non, c'est Marsiac. Marsiac.
Ah oui, Marsiac. On n'est pas loin.
Elle n'a pas besoin de fouiller, mais elle l'a
trouvé. Sophie, à peu près.
Géraldine, à peu près. Vous aviez une question à poser à Pascal, Sandrine.
J'avais une question, mais je ne voudrais pas mettre la mauvaise ambiance, mais est-ce qu'il n'a pas peur de se faire censurer ou des choses comme
non,
ça par
direct,
rapport
non.
à ce qu'il dit?
Profitez-en, on est en direct.
Et puis on a du répondant.
C'était
la question.
Est-ce que ça vous est arrivé, Pascal,
d'être
censuré? Est-ce que vous avez peur d'être censuré?
Non. Ah c'était ça. Attends,
oui,
non,
oui,
moi j'ai pas. Ah non, moi j'ai pas. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de journalistes s'auto-censurent, beaucoup d'artistes s'auto-censurent, beaucoup de gens qui écrivent des dialogues, ça s'auto-censure. Ça j'en suis convaincu. Après, je suis comme vous. On a une responsabilité quand on parle à l'antenne et il y a des choses. Par exemple, je joue souvent le modérateur. Quand quelque chose a été dit qui sort des clous, je dis « attention, c'est votre avis que vous venez d'exprimer » et de ça. J'ai plutôt ce rôle-là, mais je n'ai pas de censure. Pourquoi vous pensiez à quelque chose, madame?
Non, pas en particulier, mais j'aime beaucoup votre « grande gueule », entre guillemets.
C'est gentiment dit.
Merci.
Que faites-vous, Sandrine, dans la vie?
Et dans la vie, je suis secrétaire pour une société de transport.
Très bien. Des enfants, mariés?
Mariés, deux enfants, dont la grande qui a quitté le nid il y a 3 semaines. Ouais. Et je vous avoue que c'est un peu dur.
Aïe, 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 le syndrome du nid vide. On a des points communs, beaucoup d'ailleurs, avec Pascal, mais notamment la curiosité des autres. Hein. Je crois qu'on a vraiment, on aime bien connaître les vies de ceux qu'on prend en ligne, notamment.
Bah, c'est vrai que moi, je pose des questions antennes que je n'oserais pas poser dans la vie, parce que dans un dîner, tu ne vas pas demander aux gens comme ça, les gens, ils te diraient, mais t'as envie. Dès que les gens, si par exemple Bernard, il raconte sa vie, comment il était enfant, sa mère était gentille. On va tous écouter, parce que c'est rigolo. Mais les gens, ils sont généralement pudiques, ils n'osent pas parler d'eux-mêmes. Mais si vous me parlez de comment vous étiez enfant, si votre mère était sympa, si au contraire, vous aimiez vos frères et sœurs, que sais-je.
Tu veux que je commence là?
Non, là on va jouer.
Il y a un côté psy qu'on aime bien tous, j'imagine, quand tu fais ce métier.
Au bluff européen avec les copains. Il y a Caroline Margeridon, il y a Bernard Montiel, il y a Daniel Moreau qui sont là autour de moi et on va jouer au bluff.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Le bluff va porter sur Nantes.
Il a plu sur Nantes.
Allô?
Oui, oui.
On est là, ne vous inquiétez pas.
Donne-moi la main.
Elle n'est pas très guéguée, cette chanson. Hein.
Non, mais ça, c'est pour me faire plaisir. Hein. C'est une dédicace pour Daniel Moreau, ça.
Son père est mort à Nantes.
Et, oui.
Et la rue qui est dans cette chanson, rue de la Grange-Belle, n'existait pas. Et la rue de la Grange-Loup, pardon.
Ouais.
Et Barbara est venue inaugurer une chanson avec Gérard Depardieu qui existait dans la chanson, mais qui n'existait pas à Nantes. Et maintenant, il y a une rue de la Grange-Loup.
L'un des emblèmes de Nantes, ce sont les biscuits lus, et particulièrement le petit beurre inventé à Nantes en 1886. La biscuiterie lus, construite en 1937, est un chef-d'œuvre architectural art déco surplombé d'une tour phare de 36 mètres de haut. Aujourd'hui, elle ne produit plus de biscuits. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans le sous-sol de l'ancienne usine lus? Les copains vont vous faire chacun une proposition. Sandrine, à vous de me donner la bonne réponse. Caroline.
Eh bien, c'est tout simplement, cette usine est devenue un hammam géant. Et oui, le plus grand hammam géant de France. Il fait environ 650 mètres carrés. Ce qui est immense parce que on peut avoir un hammam de 2 mètres carrés chez soi. Donc, on voit la différence.
Ah bah oui.
Et c'est plutôt assez joli parce que la transformation, elle mène un peu le passé industriel et le côté, la tradition orientale, c'est plutôt assez beau. Donc, il ne reste plus qu'une tour parce que c'est en 1986. Que la deuxième tour a été dégagée.
Bernard.
Bon, Caroline dit n'importe quoi, comme d'habitude.
Mon petit chou.
Ben oui, j'ai expliqué la vérité. Alors, je veux dire, les biscuiteries. Lefèvre utile, c'est là le
oui,
lieu.
Le lieu,
effectivement. Il disait, pour susciter la gourmandise, rien de tel que de séduire l'œil. Alors, pour pouvoir savourer nos gâteaux, disait-il, le fondateur de l'U, pour savourer, oui, nos gâteaux si gourmands. Pour pouvoir savourer nos gâteaux si gourmands, il serait souhaitable de développer un corps sportif. Donc, ça répondra à vos attentes. Il avait créé des cours de tennis. Parce qu'il y a la place, c'est immense dessous.
C'est 8000 mètres carrés au total.
Alors, il voulait que ses employés fassent du sport.
Alors, je vous donne un indice, c'est un endroit où je rêverais d'être enfermé toute une nuit. Alors non, ce n'est pas un sex shop, et pourtant on peut y tremper son biscuit, puisque c'est le musée français du biscuit. On peut faire un tour de France des biscuits là-bas, macarons d'Amiens, palais breton, biscuits roses de Reims, et on apprend toute l'histoire du biscuit.
Daniel, vous choquez un peu, Pascal Pro, il n'est pas habitué à avoir...
Vous savez que quand j'étais enfant, on passait devant cette tour, il y avait les deux tours, et on sentait...
L'odeur des biscuits.
Exactement. Et tous les Nantais connaissaient cela. Et effectivement, il y a une tour qui a été.
En 1986.
Exactement. Et la famille Lefèvre-Utile, qui a eu le tort, sans doute, de vendre, je ne sais quand, ces biscuits, qui était une vieille famille nantaise.
Ils ont vendu ça à un groupe américain.
De commerçants nantais. Parce que Nantes était une ville très bourgeoise et très commerçante au 19e siècle. Donc il y avait beaucoup de familles.
À votre avis.
Comme à Bordeaux.
À mon avis, j'en ai aucune idée. Je suis complètement perdue.
C'est pas
Pascal,
compliqué.
Il faut demander l'aide
de Pascal. Il faut me croire, croyez-moi. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez d'abord?
Je pense pas que ce soit un hammam, Sandrine.
Pascal.
Quoi?
Je
pense que
j'ai
raison. Que ce soit un
hammam. Et Pascal 2, il a une idée de la réponse.
Moi, je pense que c'est un hammam.
Est-ce que vous avez...
Heureusement que j'ai le Pascal 2.0 à côté de moi.
Mais non, c'est cours de tennis.
Est-ce que vous êtes allé sur les traces de votre mentor à Nantes, à La Baule?
Alors, je vais normalement cet été aller à La Baule pour découvrir un petit peu son territoire.
Ah oui, vous invitez ce matin, j'ai entendu.
Voilà. Mais vous écoutez tout le temps, en fait.
Moi, je vous aime beaucoup, Pascal. Ah,
quelle déclaration.
Ça n'a pas l'air réciproque. Ça a l'air réciproque.
Oui, on sent que...
Arrêtez, mais...
Sandrine, vous dites quoi?
Vous êtes une inaccessible étoile.
Rappelez-moi les trois réponses.
Pour Caroline, c'est un hammam géant. Oui. Monsieur Boubouk penche pour cette hypothèse. Oui. Bernard, un ensemble de cours de tennis.
Mais
et Daniel, le musée français du biscuit.
Je suis complètement perdue, mais je ne crois pas au hammam. Ah non, c'est chaud, mais en même temps...
Il fait chaud,
et hammam, c'est chaud, alors
C'est chaud et
humide. Je vous donne un indice, jetez-vous à l'eau. C'est tout ce que je peux vous dire.
Allez, il faut donner une réponse.
Sandrine, comment vous ne pouvez pas me croire?
La réponse de Daniel. Ah. Je fais confiance à la vieille fille.
Vous me connaissez bien, vous.
Eh bien, ce n'est pas une bonne idée, Sandrine. Effectivement, c'est un hammam géant, l'un des plus grands de France. Et Pascal n'était pas au courant, donc on lui apprend.
Heureusement que je suis là. En 2000, ils ont inauguré ça. Et oui, et voilà.
Je pensais que c'était le lieu utile, pour tout vous dire.
Non, mais ça s'appelle le lieu utile. Ça fait 8000 mètres carrés au total.
Le lieu unique.
Oui, il y a des expositions. Oui.
C'est sur le quai Ferdinand Favre.
Le total fait 8000 mètres carrés, mais il y a ce fameux hammam, le plus grand hammam de France, pour de vrai, qui est très beau d'ailleurs.
Bon, Sandrine, on est obligé de se séparer de vous.
Désolée,
Sandrine,
je
vous embrasse.
Bye bye. Bonjour, Laurane.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Laurane.
D'où appelez-vous?
Je suis à 20 km de Dijon, à Saint-Bernard.
Très loin.
Dijon est en force ce matin.
Ouais, grave.
Mariée, trois enfants de quel âge, Laurane?
De 14, 5 et 2 ans.
Et vous faites quoi dans la vie?
Je suis buraliste depuis 6 mois.
Avec 3 enfants, dont 2 très jeunes quand même, vous parvenez à travailler.
Ouais, chapeau.
Vous travaillez peut-être au même endroit que votre travail,
Marie.
Non, pas
vous travaillez
du tout.
Au même endroit que votre travail.
Voilà. Allez, voilà. Ça s'appelle travailler.
Surtout, il ne faudra pas écouter Caroline. Si elle vous donne des indices, il ne faut pas y aller.
Ça s'appelle travailler au-dessus de ses moyens.
Vous vivez au même endroit où vous travaillez.
Ouais, voilà. Vous vivez au-dessus de vos moyens.
À 20 minutes.
Ce vieux fantasme du buraliste qui habite à l'étage au-dessus.
Mais oui, c'est ça, généralement. Petit, ça.
Et est-ce que vous écoutez Europe 1 au travail?
Non, j'écoute dans la voiture quand je vais chercher les enfants. Donc, je vous écoute tous les soirs.
Ah, bah, c'est sympa.
Avant la sortie de l'école.
Et vous vous êtes dit, tiens, bah, je trouve les réponses, donc je vais m'inscrire.
Voilà, c'est ça.
Vous connaissiez Sarah, Laurane?
Pas vraiment,
moi non plus. Et franchement, je suis tout à fait bluffée. Alors, on va jouer au chiffre du jour. Europe 1.
1 180 000 centimes. Non, je vais finir dans les chiffres. C'est pas la première fois.
Le chiffre du jour. Alors, c'est un chiffre bien sûr lié à notre invité. Je vous donne le chiffre 25. À quoi correspond-il? Est-ce que c'est le nom de l'album préféré de Sarah Schwab? Est-ce que c'est l'âge auquel Sarah Schwab a prévu de prendre sa retraite? Lâche pas la vie. Ou est-ce que c'est le nombre d'imitations que Sarah Schwab faisait dans sa première vidéo YouTube? Le nom de l'album préféré de Sarah, l'âge auquel Sarah a prévu de prendre sa retraite, ou est-ce que c'est le nombre d'imitations que Sarah faisait dans sa première vidéo YouTube?
Laurane.
Alors, je crois qu'on vient de dire 22 pour la première vidéo YouTube.
Bravo.
Donc, c'est pas ça.
Et voilà, 25 ans pour la retraite, c'est super, c'est mais jeune, hein. Ça me paraît peut-être un peu jeune. Enfin, non, j'aimerais bien, points, enfin, j'aurais bien aimé, mais si elle peut, c'est bien. Donc non, on va partir sur la première proposition.
25.
Le nom de l'album préféré de Sarah.
Et qui serait l'artiste du coup?
Qui serait l'artiste? Moi, je Sarah.
Adèle.
Vous
l'avez fait aussi, Adèle?
C'est un album
dans mon spectacle. Ouais.
Ah, vous l'avez fait sur cette chanson-là?
Non, c'est sur Rolling in the Deep, une de ses premières. Et c'est vrai que cette voix-là, par exemple, m'a donné énormément de fil à retordre parce qu'elle ressemble un peu plus à ma vraie voix. Donc c'est très compliqué pour moi, ce genre de voix.
Ouais. Et alors, c'est un album que vous écoutez tout le temps? Ou à quel moment précisément?
Je pense que c'est surtout ces dernières années, parce que quand j'ai commencé vraiment les vidéos, on m'a beaucoup dit « tu devrais chanter du Adèle », etc. Et je me suis vraiment penchée sur tous ces albums, et celui-là est merveilleux. En plus, 25 ans, j'arrive pas à me dire qu'elle avait un an de plus que moi au moment où elle l'a fait. Et ouais, c'est une très très grande chanteuse.
Alors c'est étonnant, parce que quand on vous entend parler, vous avez une voix assez... alors, je dirais pas aiguë, mais pour chanter douce. Du Adèle, qui a une voix grave, c'est dingue. Comment ça s'appelle
l'amplitude.
L'amplitude vocale. Vous avez combien d'octets?
Les octets, c'est les disques durs externes.
J'avais compris.
J'avais un beau disque dur.
Comment ça s'appelle, vous savez, quand on dit qu'on est
octaves.
Des octaves.
Bon, je sais pas.
On va jouer au bluff Europe 1 avec Laurane, les amis, si vous le voulez bien.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, le bluff, c'est qu'on va parler d'un de vos domaines fétiches. Il paraît que vous êtes une grande fan de cinéma, que vous adorez les films d'horreur.
Oui, c'est vrai que j'aime bien les films d'horreur. Ouais.
Voilà. C'est les jeunes.
Vous avez un film d'horreur préféré?
Pardon. Oh là là, j'en sais rien du tout.
C'est vrai que... Qui vous a marqué le plus?
Qui m'a marqué le plus?
Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Psychose?
Psychose, ouais, ça fait peur. C'est vrai que ça m'a bien marqué. Je pense que le film d'horreur qui m'a marqué le plus, je pense que ce serait Sinister.
Honnêtement.
Parce qu'il me glace le sang, c'est avec des enfants, il y a quelque chose de lugubre.
Et l'exorciste.
Bon, bref, il m'a traumatisée quand j'étais petite, ça. Je peux toujours pas
voir
la tête.
Je vais vous poser une question et les copains vont vous proposer 3 réponses. Laurane, à vous de choisir la bonne réponse, si possible. On va parler justement. De Psychose, c'est la musique de Psychose.
Sympa. C'est mon réveil le matin.
Adapté.
Ça met en forme.
Ouais, voilà,
génial.
Pour aller prendre la douche, quoi.
Du roman du même nom sorti en 1959. C'est sans doute l'un des films d'Alfred Hitchcock les plus mémorables, grâce à des scènes cultes comme celle de la douche et surtout grâce aussi à cette musique inoubliable. Pour garantir le succès du film au box-office, Hitchcock était prêt à tout pour que l'effet de surprise à la fin du film reste intact. Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait, Joe?
Alors, Alfred Hitchcock était totalement monomaniaque, hein. Sur tous ses films d'ailleurs il faisait ça, mais c'est vrai que la fin de Psycho c'est un twist qu'il fallait pas révéler, et donc il a fait quelque chose de très simple, il a acheté tous les livres, puisque Psychose est adapté d'un livre qui était disponible dans le commerce, il a fait mandater des gens pour aller dans les librairies partout dans les États-Unis et acheter tous les bouquins qui étaient en vente de Psychose, afin que personne, aucun spectateur ne puisse découvrir la fin avant de le voir en salle.
Wow.
C'est totalement faux, mais c'est pas bête.
C'est une idée.
Ouais. Wow. Non, en fait, il a fait quelque chose de plus fou que ça. Dans cette fin, l'identité du tueur, elle était différente. Et l'équipe du film et les journalistes qui avaient assisté aux premières projections du film ne savait pas quelle version serait la définitive. En fait, il a filmé une autre version, malheureusement perdue aujourd'hui, mais il a voulu semer le doute. Et donc, en fait, la mère qui, vous savez, à la fin, est empaillée, on découvre qu'elle était empaillée, tout ça, et bien cette mère, elle ressort de la cave. Ouais. Et il a filmé une happy end, en fait, de son film qui n'a jamais été diffusé jusqu'à aujourd'hui.
Caroline.
Wow. N'importe quoi. En fait, ce film durait exactement 109 minutes, mais il fallait prendre son temps, car avant d'avoir accès à la salle, chaque spectateur devait signer une décharge pour ne pas dévoiler la fin du film.
Ah oui, c'est pratique, organiser ça.
À votre avis, Laurane, pour Joe, il a acheté l'ensemble des copies du livre qui a inspiré le film pour ne pas dévoiler la fin du film. Thomas, il a filmé une fin alternative, malheureusement, perdu aujourd'hui pour semer le doute. Et pour Caroline, les cinémas devaient faire signer une décharge aux spectateurs.
Wow. Eh ben, alors là, j'en ai aucune idée.
Qu'est-ce que vous diriez, vous, Sarah? Vous avez une idée?
Non, pas les livres, je pense pas. Si?
À ce point, wow, c'est chaud. C'est alors, dur, hein. Vous diriez quoi? Vous lui conseillez quoi, alors, à Laurane?
Bon, les livres.
Les livres. On la suit, Laurane ?
Il aurait acheté l'ensemble des copies du livre.
Ouais.
Ça me paraît... Bon, allez, je vais lui faire confiance.
Donc, on bloque cette réponse. Eh bien, c'est une bonne réponse. Il a acheté l'ensemble des copies du livre.
Il me semble que j'avais déjà entendu cette histoire, mais j'étais
c'est
plus fou. Sûre.
Il a fait jurer aux membres de l'équipe du film de garder la fin secrète. Et ouais. D'ailleurs, je vous conseille un biopic que je suis en train de regarder, moi, super, sur Disney+, avec un Hitchcock campé par Anthony Hopkins.
Ah oui, c'est super.
Il y a Helen Mirren aussi, qui joue sa femme. Scarlett Johansson, qui joue l'une de ses actrices. Ouais. Et c'est formidable. Ouais. Et il parle justement de cette anecdote dans ce
folle
dans
cette ce anecdote, biopic. C'est incroyable.
Acheter tous les bouquins, il assurait quand même Hitchcock.
Ah, oui, il était un peu fou aussi.
Franchement, regardez ce biopic, c'est dingue la performance de. Vous l'avez vu donc.
Ouais, avec Anthony Hopkins, c'est super. C'est et oui, ça fait partie des quelques biopics que j'ai trouvé vraiment vraiment bien.
Ouais. Je voulais poser une question peinture à Laurane, notre auditrice.
Il y a toujours un peintre, un copain. Il y a toujours un peintre italien.
Vous savez qui chante?
Bobby Lapointe, non?
Non.
René Lataupe.
Marcel Amont.
Lataupe
toi-même. On en a déjà parlé dans l'émission. 2024 marque les 150 ans du mouvement impressionniste. Alors, oui. Quand on pense aux impressionnistes, on pense à Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude Monet. Vous êtes amatrice de leur peinture?
Oh bah bien sûr, oui. Ouais.
C'est d'ailleurs une peinture de Monet, Impression Soleil Levant, qui a donné son nom au mouvement impressionniste. L'une des œuvres majeures de Monet, ce sont ses nymphéas, exposées au musée de l'Orangerie à Paris.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370 euros par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le silence se fait sur ce.
Il était très ami avec Georges Clemenceau, Monet.
Ah,
et il avait demandé à Monet d'en faire cadeau à l'État et par son intermédiaire. Mais pour quelle occasion?
Quand tu penses qu'ils ont fait le salon des refusés.
parce que personne n'aimait leur peinture.
Et oui.
À l'époque, t'avais au Petit Palais, t'avais tous ces artistes incroyables, ils étaient au Salon des Refusés, au Petit Palais, et les grands, soi-disant, au Grand Palais.
Qu'on a oublié.
Et qu'on a totalement oublié quand ils pensent.
À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, du centenaire de la naissance d'Eugène Delacroix et de l'armistice de 1918.
Bah, moi, je pense que c'est le troisième, hein. Ça paraît évident, c'est l'armistice.
Sarah aussi.
Je partirais sur l'armistice.
Ouais, tout à fait.
Et Lorane aussi.
Ouais, moi j'aurais dit ça aussi.
Ouais.
Il va en faire cadeau à la France le 12 novembre 1918 comme un symbole de paix.
Monet, il était bien ce
avait
Monet.
À peine commencé cette œuvre monumentale et il verra jamais d'ailleurs l'édifice terminé parce qu'on a créé les salles autour des Nymphéas. Ces salles, on les a créées selon sa volonté au musée de l'Orangerie 9 ans plus tard, quelques mois après sa mort. Il y a deux salles ovales avec un plafond qui agit comme un puits de lumière pour éclairer les œuvres en fonction du temps, et c'est absolument
et vraiment
magnifique.
On vous invite à y aller, c'est sublime.
Trois bonnes réponses.
Et bravo.
Et voici une question faune et flore. Vous reconnaissez ce générique?
Oui.
Le générique de Flipper. C'était votre série préférée quand vous étiez enfant ou pas du tout?
Vous avez flippé Flipper. Non,
Vous n'étiez pas né quand elle était diffusée dans les années 60. Vous êtes né quand, vous?
Ah, je suis né dans les années 90.
Oh, mon c'est Dieu, un enfant. Vous en avez entendu parler ou pas?
Oui,
de cette série?
Oui. Il y avait même après, ils en ont refait, mais qui étaient moins bien, des nouvelles, puis des dessins animés, etc.
D'accord. Vous l'avez vu, vous, Laurent? Ça ne vous parle pas, vous non plus? Vous êtes toute jeune?
Non, pas du tout. Oui.
Bon, eh ben, on est mal barré. Alors, on a posé une question sur cette série pour faire plaisir à Bill François. On est tellement content de l'avoir retrouvé. Flipper le Dauphin, une série des années 60 qui a squatté le petit écran pendant des années. Et nous allons justement parler de Dauphin. Bill François, on va le mettre de côté, même si on est heureux de l'avoir retrouvé. Écoutez ce bruit. On appelle ça un cliquetis de dauphin. Ils émettent des sons sous forme de cliquetis qui leur servent à se repérer façon sonar et à communiquer. Mais ces cliquetis ont aussi un autre usage. Lequel ? Est-ce pour attirer leur proie ? Est-ce pour imiter des informaticiens ? Ou est-ce pour punir leurs petits ?
Est-ce qu'on pourrait entendre ce cri qui me rappelle mon ex ? Ah, c'est bien lui.
C'était son rire ?
Oui, ou autre chose.
Ah, d'accord.
Oh, on a l'humeur polissonne ce mercredi.
On a des confidences.
Alors, vos propositions, Sophie, c'était
attirer des proies, imiter des informaticiens ou punir leurs enfants, leurs petits dauphins.
Oh là là, ça me paraît très... Alors bon. Lorane, ouais, à votre avis.
C'est difficile. Peut-être attirer des proies.
J'aurais dit comme vous, mais ça me semble presque trop facile.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est presque trop cohérent.
Moi, je serais partie sur la proposition qui la plus horrible.
Punir les enfants.
Je vous dis, je suis partie. Non.
Bah ouais, mais il faut bien les éduquer. Hein.
Oh, dit-elle. Alors, c'est la plus douce du monde en plus. Laura, non. Isabelle, qu'est-ce que t'en penses?
Exactement comme Enora.
Ouais, hein.
Je crains que ce soit ça.
Oh, oui, nous craignons que ça soit la punition, Lorane.
Lorane ?
Ah, oui, parce qu'en fait, attirer des proies, un cri strident comme ça, c'est un peu...
Oui, elle partirait, je pense.
Ça veut dire, je suis là, je vous attends.
C'est ce que vous avez fait, en tout cas.
Oui, tout à fait. Absolument. Sophie. Non, alors, nous, on partirait là-dessus, en
Est-ce que je bloque votre réponse ?
Vous partez sur quoi? Sur
la troisième.
Je pars sur celle que
les petits.
Ah, voilà. Sur la punition. Allez, on bloque la punition.
Oh. Donc, je bloque cette phrase. Il paraît que c'est l'équivalent d'une fessée sous-marine. C'est vrai, Bill?
Oh là là.
Exactement, c'est une bonne réponse.
Ouais. La fessée sous-marine, ça me fait rire.
C'est la quatrième bonne réponse, donc elle a son importance.
Yes, génial.
Alors, expliquez-nous, racontez-nous.
C'est l'équivalent d'une fessée, mais ils n'ont pas de fesses, hein, les dauphins. Donc, ça leur tape sous le corps à la fois, en fait, parce que c'est du son. Donc, c'est une vibration de la matière dans l'eau qui est très dense. Et donc, ils émettent un son très, très fort et tellement fort que ça tape, ça donne une claque au bébé dauphin.
Ah ouais,
quand il est pas sage. Voilà.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas sages, par exemple?
Ah bah, je sais pas, ils font des bêtises de dauphin. À eux de voir. Mais...
Des bêtises de dauphins. Une bêtise de dauphin.
Mais oui, qu'est-ce qui peut.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les dauphins n'éduquent pas forcément que des dauphins parce qu'ils sont connus pour kidnapper d'autres espèces, des petits d'autres espèces. Si une mère perd son petit chez les dauphins, elle va être tellement triste qu'elle va aller essayer de chercher un autre petit ailleurs.
Ah, et donc, ce sont les coups des mères.
Des petits d'autres espèces.
Ah, c'est pas pour rendre service.
Non, c'est pas. C'est,
moi, je pensais qu'ils éduquaient d'autres espèces.
Ah, moi aussi, genre, ils sont sympas. Ouais. Mais les dauphins, vous savez, ils sont pas si sympas.
Oui, ils sont beaucoup moins angéliques qu'on l'imagine.
Exactement.
Bon, en tout cas, ça fait 4 bonnes réponses pour Lorane. Bravo à vous. Grand moment pour Lorane qui va tenter.
Ça, c'est sérieux.
Le jackpot. Attention. Un jackpot particulier aujourd'hui, un jackpot spécial série. Il faut me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Ça va, Lorane ?
Oui.
Je suis sûre que vous êtes entraînée. Vous êtes entraînée avant de vous inscrire.
Oui, en écoutant la radio, quoi.
Et oui. Mais moi, j'ai confiance. Allez, on vous souhaite bonne chance.
Bonne chance.
Merci. Bonne chance, Lorane.
Je vous envoie toutes les ondes positives.
Attention, Lorane. Top chrono. Ally McBeal était une avocate ou une vampire ?
Avocate.
Lost, les disparus, a connu 6 ou 8 saisons ?
8.
Dexter était un serial killer policier ou un chasseur vegan ?
Serial killer policier.
Selon Christophe Ondelat, Dr House, c'est pas quoi ?
Je sais pas.
C'est Game of Thrones, c'est George R.R. Martin ou J.K. Rowling ?
Martine.
Dans K2000, Kit était une voiture ou un aspirateur ?
Une voiture.
Dans Magnum, Zeus et Apollon étaient des Doberman ou des bichons ?
Des Doberman.
Dans The Walking Dead, faut faire attention aux zombies ou aux vampires ?
Zombies.
Quel personnage de South Park est régulièrement tué en fin d'épisode ?
Kenny.
Dans Les Simpsons, quel est le prénom du père de famille ?
Homer.
Le chien de Homer Simpson, c'est Petit Papa Noël ou Raoul ?
Petit Papa Noël.
Dans Maggie, le mari de Rosie Vart, c'est Roger Pierre ou Jean-Marc Thibault ?
Mais non.
Elle était trop bonne.
Est-ce que vous êtes
bonne réponse ?
Oh non, je peux pas le croire.
Vous êtes une fan de série, Lorane.
Hein ? J'aime bien ça.
Mais vous êtes incollable.
Quand est-ce que vous trouvez le temps de regarder des séries avec vos 3 enfants ?
C'était avant.
Ah. Et eux, ils regardent quoi ? Des dessins animés, beaucoup ?
Bon, on n'a pas la télé, alors du coup, ils ne regardent pas la télé.
Wow.
Pas grand-chose.
Eh ben, chapeau. Alors, vous êtes trompé sur Lost, les disparus, a connu 6 saisons.
Ça, j'ai pas regardé.
Et Mickey Mouse, c'était une chanson, je crois, de Christophe Ondelat.
Ah oui, c'est vrai.
Oh là là.
Ah, c'est vrai.
Ouais, ça, c'était le piège, puisque.
Ah là là.
L'autre carrière de Christophe.
Ouais, il est meilleur dans son émission. Bisous, mon Christophe.
On vous embrasse, Lorane. Bonne fin d'après-midi.
Bisous, Lorane.
À bientôt.
Et à bientôt. Peut-être voulez-vous embrasser vos enfants ?
Oui, mon mari et mes 3 enfants, Sohan, Alice et William.
Et votre mari s'appelle comment ?
Jean-Philippe.
Jean-Philippe, eh ben on embrasse cette jolie petite famille.
À très bientôt. À très bientôt.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Bonne fin de nuit à tous. À suivre la table des bons vivants avec Laurent Mariotte et sa bande. Ce samedi, les métiers de la salle en restauration ont été mis à l'honneur. Et puis on a dégusté un vol au vent aux tagines de veau avec Marie Drucker. Voilà, sachez qu'elle publie son livre « Bien manger pour être en forme » aux éditions Michel Lafon. Et on en a évidemment parlé avec elle. Mais avant de se mettre à table, eh bien on se replonge dans un souvenir de l'année 1991. Cette année-là, les radios chantaient « Senza una donna ». Voici le duo Zucchero-Paul Young sur Europe 1. I changed the world, I changed the world. Ooh, ooh, I changed the world. You come back, my lady. Senza una donna, Paul Young et Zucchero sur Europe 1. Zucchero que vous pourrez d'ailleurs applaudir très prochainement en France le 25 juin à l'occasion du festival Le Printemps de Pérouges dans la plaine de l'Ain et le 9 juillet à Nice au Grimaldi Forum Monaco. Voilà qui est dit. L'heure est venue à présent de se mettre à table, la table des bons vivants.
Qu'est-ce que c'est que la crêpe chichi ?
Eh bien, la crêpe chichi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement.
Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Laurent Mariotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci chers auditeurs d'Europe 1, merci d'être chaque samedi de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec la bande. Croissant, brioche, tartine de beurre, que mangez-vous au petit déjeuner ? Eh bien on en parle dans un instant. Et puis ce samedi, on va s'intéresser aussi au métier de la salle au restaurant. Lever les filets d'un poisson, découper une viande, flamber une omelette norvégienne ou des crêpes Suzette, ces gestes reviennent sur le devant de la scène. Comment le service en salle a évolué ? On en débat dans un instant. Et puis Marie Drucker nous rejoint à midi pour partager le plat du jour. Un tagine, mais attention, gastronomique, vous entendrez. Voici mes bons vivants du jour. Aujourd'hui, il troque sa plume pour des pinceaux. Il va dépeindre la table à travers les tableaux. Oui, c'est un poète. C'est aussi notre critique gastronomique. Vous le lisez dans le Figaro. C'est Emmanuel Rubin. Salut Emmanuel.
Salut. Ravi d'être ici.
Mais nous aussi, de vous avoir à cette table. Il s'est dévoué pour déguster les vins primeurs de Bordeaux 2023 et ça a duré 2 semaines. Il va nous donner tous ses tuyaux pour nos futurs achats. Vous le lisez dans la revue du vin de France, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis, comment allez-vous ?
Bien et vous-même ?
Bah,
et vous
bien,
surtout, c'est ça, et vous, 2 semaines en cure à Bordeaux.
Le palais un peu fatigué mais ravi d'être là.
Alors vous allez donner des astuces, ouais, hein, et des conseils à nos auditeurs pour refaire leur cave par exemple.
Pareil la vôtre ?
Ben, oui, ben, là, ouais, on en a bien besoin, ouais. Ça sent l'écho dans la mienne. Andiamo les amis. Petit rituel, vous le connaissez de l'autre côté du poste et du transistor. Quel est votre goût de la semaine ? Une adresse, une recette, un produit, un repas à déguster chez des amis ? Je vous pose la question, t'as Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Ben, rien de tout ça. Moi, mon goût de la semaine, c'est malheureusement le froid et les bougies. Et malheureusement, je crains que la semaine qui arrive ne soit très longue.